Quentin,
Bonsoir.
je vous présente Alain Ndiaye et
Bonsoir.
Benjamin Sportouche.
Bonsoir,
Bonsoir à tous
bonsoir.
les deux. Très beau livre, très délicates illustrations par Caroline Gamon aux éditions CNRS, aux éditions du CNRS, tout simplement, La Mort. Alors, nous vous recevons en ce mercredi de Toussaint, veille de Fête des Morts. Pourquoi demain est la Fête des Morts? Pourquoi le 2 novembre? Il y a quelque chose à voir avec les cycles agricoles, la religion catholique? Expliquez-nous.
Oui, alors c'est le résultat de tout un syncrétisme de plusieurs cultures, hein, en commençant par les Celtes, les Romains et puis l'Église catholique qui a imposé cette date du 2 novembre, qui correspond effectivement chez les Celtes à la fin du cycle et des moissons.
Ah, c'est ça. Plus rien ne germe,
Voilà,
quelque
tout à
sorte.
fait. On rentre le bétail à domicile et on s'occupe des morts parce qu'on est aussi, pour les Celtes, c'est la fête de Samonios. On est donc un seuil entre l'équinoxe et le solstice, donc la nuit prend le pas sur le jour.
Très bien.
Et donc on est dans un seuil,
D'accord.
il faut s'occuper aussi des morts à ce
Très
moment-là.
bien. Donc ça, c'est demain, mais aujourd'hui, c'est vous, votre portrait tout de suite réalisé par Gaëlle Legras.
Une mère, les sites de sa vie, la mort, c'est la règle de trois de Fanny Bocantin. Sa mère, pédiatre, lui transmet sa passion pour l'histoire. Fanny Bocantin, née à Biarritz en 1975, la famille possède une maison à Nemours. Pendant les vacances, avec sa mère, elle ramasse des pierres et fouille le sol pour dénicher des traces du passé. Au collège, au lycée, elle s'intéresse à la biologie, à la génétique et à l'archéologie préhistorique. Ma mère m'avait parlé de l'ethnologue André Leroy-Gourhan quand j'étais au lycée. À l'époque, j'avais lu les religions de la préhistoire. Après le bac, elle étudie l'archéologie à Paris. Elle est captivée par le cours magistral donné par Yvette Taborin, une professeure habitée par sa discipline, interviewée ici sur le site d'Étiol dans l'Essonne.
Il y a une habitation où il y avait le foyer avec des grandes pierres et sur deux de ces pierres, il y avait encore des vertèbres de cheval en appui. Vous avez fait un rôti de coup de cheval, quoi.
En 2003, Fanny Bocantin obtient un doctorat et se spécialise dans l'anthropologie biologique. Elle est très attachée à ce qu'elle appelle les sites de sa vie. Dès l'âge de 22 ans, en 1997, elle est désignée responsable du premier, celui de Malaha, situé aujourd'hui en Israël, dans la vallée du Jourdain.
Malaha, bah, c'est un hameau de chasseurs-cueilleurs qui, a priori, sont sédentaires une bonne partie de l'année, sur plusieurs générations.
Elle y étudie notamment les pratiques funéraires en cours entre 12 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Les squelettes permettent d'aborder toutes les questions qui touchent aux sociétés humaines et à leurs pratiques. Dans le deuxième, à Beï Samoun, elle découvre les restes d'un individu incinéré il y a environ 9000 ans, ce qui constitue la plus ancienne trace de crémation dans la région du Proche-Orient. La violence du feu signifie un changement de la perception du défunt par sa destruction. Dans La Mort, à l'œil nu, elle s'intéresse aux rites funéraires, toutes époques confondues. On y apprend entre autres qu'au Japon, la crémation frôle les 100% car la décomposition naturelle est perçue comme une offense. Les morts naviguent dans des mondes parallèles, en partie définis par les traditions et les croyances, mais où les convictions et l'imaginaire individuel gardent une place importante.
Fanny Bocantin, alors c'est vrai, dans ce livre, vous évoquez les premiers, l'apparition des premiers rituels funéraires. C'était à l'époque de l'homme de Néandertal. Mais vous évoquez surtout les premiers cimetières. Et vous dites l'apparition des premiers cimetières il y a 10 000 ans à peu près. C'est un moment clé au moment de la sédentarisation. Pourquoi c'est un moment clé?
Tout à fait, parce que en fait, pendant tout le paléolithique, on pense qu'il y a une sélection des morts. Tous ne sont pas inhumés. Il doit y avoir d'autres pratiques, notamment l'exposition, qui est quelque chose d'assez répandu. Inhumer les corps, c'est déjà fixer les défunts quelque part, c'est pouvoir les regrouper, c'est garder l'intégrité du corps, et c'est pouvoir retourner sur la tombe, la mémoriser, transmettre son lieu, transmettre la vie de l'individu qui était là à la société, à la génération suivante.
Donc c'est intégrer la vie et la mort.
Voilà, c'est intégrer en fait les morts à la société. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez rare au paléolithique et puis ça se multiplie après avec la sédentarisation. Même s'il reste une sélection des morts au tout début de la sédentarisation, on n'a pas tous les morts, on a beaucoup de jeunes adultes, notamment masculins, mais on a quelques femmes, on a quelques enfants aussi. On ne sait pas trop sur quoi se fait ce choix. Et puis, après, avec le début de l'élevage, de l'agriculture, on commence à avoir toute la population qui est intégrée dans ces premiers cimetières.
Inhumation. Pardon.
Je voulais dire, au début, en fait, ce sont des cimetières qui. Ce n'est pas vraiment des cimetières. Les morts sont vraiment intégrés dans les maisons. Et puis après, on a des espaces dédiés, avec des vrais cimetières, dédiés spécifiquement pour les morts.
Alors, est-ce qu'on inhume seulement sur le dos? C'est une des découvertes de votre ouvrage. Non, pas du tout. Il y a des inhumations sur le ventre, sur la face, mais aussi sur le côté, parfois même assis et parfois même debout, selon les cultures, selon les rituels.
Tout à fait. Alors, on ne connaît pas toujours la signification de ces positions. C'est vrai que nous, on est habitués à avoir des corps sur le dos, hein, comme si, ils étaient en position de dormir ou voilà, de repos. Mm-hmm. En fait, l'archéologie montre que la plupart des sociétés enterrent plutôt sur le côté, voire sur le dos, mais complètement replié.
En position fœtale.
Voire en position vraiment de fœtus, mais assis. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'est toutes les... Oui. Les momifications. Et puis, on a des positions sur le ventre. Là, on ne sait pas trop si c'est honorifique ou si c'est plutôt de l'humiliation.
Et assis, voilà. Assis, les jambes croisées, chez les bouddhistes, peut-être, dans certaines traditions bouddhiques, les grands Rinpoche qui sont brûlés, d'ailleurs, dans cette position.
Oui, c'est qui meurent aussi en position assise, hein, d'asset assise, parce que la position assise, un peu universellement, enfin, de façon très récurrente, est une position de domination. Mm-hmm.
Fanny Bocantin, il y a une évocation autour des os des morts qui deviennent réifiés. Il y a des chapelles funéraires, des boîtes à chefs qui remontent au XIXe siècle. Mmh. Vous évoquez des choses absolument merveilleuses, si j'ose le terme, à propos des morts et des os.
Oui, c'est toute la fin de la chaîne opératoire, oui. des funérailles et des rites funéraires, quand il y a un oubli de l'individu, que les ossements sont ramassés pour faire des ossuaires, et ensuite, éventuellement, ces ossements peuvent servir à autre chose et à ces chapelles d'os assez extraordinaires qui servent à construire, en fait, la chapelle est construite avec des os dans la maçonnerie et ensuite sert vraiment de mobilier, comme s'il n'y avait plus rien d'humain dans ces ossements.
Il y en a une en Europe ? Il y en a une en Europe ?
Il y en a en Italie, il y en a en Portugal, il y en a en Tchéquie. Ouais. Ça, c'est 17e, 18e. Ouais. Et ça a un succès au niveau touristique vraiment incroyable. Ouais. Voilà, je pense que c'est une masse d'ossements humains qui peut faire peur. Enfin, moi, je ne suis pas sûre que j'aurais très envie de les visiter.
De les affronter.
C'est voilà.
Benjamin. Alors vous parlez de la crémation, notamment, ça remonte à plusieurs milliers d'années. Alors, il y a un essor très important aujourd'hui de la crémation. Qu'est-ce que ça raconte de nos sociétés par rapport à la mort, cet essor ?
On ne sait pas très bien pourquoi la crémation se développe ainsi, mais c'est vrai que c'est une façon un petit peu d'abord d'échapper à la décomposition qui fait quand même peur. Donc là, c'est une accélération de la transformation du corps. C'est aussi une façon d'être plus libre et de ne pas avoir de concession, de ne pas payer la concession qui est chère, mais aussi de libérer éventuellement le corps pour le déverser ailleurs. C'est aussi le fait que l'Église a permis cette crémation, donc ça fait augmenter aussi la crémation. Voilà, le fait que les gens sont beaucoup plus mobiles, donc sont moins attachés à un cimetière qu'avant. Voilà, il y a beaucoup de phénomènes qui font que la crémation
L'Église augmente. L'Église l'autorise à partir de quand, la crémation ?
1963, je crois.
Oui, c'est récent.
Ouais.
Alors, la crémation, c'est une chose, mais il y a d'autres pratiques, notamment des pratiques bio, enfin je mets des guillemets, humusation et autres, on va en parler avec vous Fanny Bocantin et avec vous Anna.
Oui bien sûr, parce qu'aujourd'hui si vous voulez littéralement retourner à la terre ou bien devenir un arbre après votre mort, eh bien c'est possible, notamment dans l'état de New York et de Washington, grâce au compost humain 100% biodégradable et Recompose, hein, c'est le nom de l'entreprise pionnière en matière d'humusation aux USA, eh bien elle a un concept qui fonctionne, le défunt est placé dans un cercueil en acier sur un mélange de luzerne, de paille et de copeaux de bois. Un système de ventilation vient alimenter en oxygène les bactéries et les micro-organismes. Et la décomposition est assurée en un mois. Vous repartez ensuite avec l'équivalent de 18 grands sacs de terreau que vous pouvez ensuite utiliser dans votre jardin ou ailleurs. La boucle est donc bouclée. Les nutriments retournent à la terre et nourrissent d'autres formes de vie. Mais surtout, l'humusation permet de réduire l'empreinte carbone des sépultures. Une crémation dégage 220 kg de dioxyde de carbone. Une inhumation classique 869 kilos, c'est l'équivalent d'un aller-retour entre Paris et New York. Et pour l'instant, la pratique, elle n'est pas autorisée en France, mais il existe quand même d'autres alternatives en attendant, les cercueils en carton ou encore les urnes biodégradables sur lesquelles on peut faire pousser une plante à partir des cendres du défunt. Fanny Bocantin, est-ce que l'ultime geste écologique, eh bien, c'est d'envisager une mort qui soit sobre pour préserver la planète, selon vous ?
Oui, je pense que c'est important, effectivement, essayer de... Mais voilà, le mort doit être maintenant éco-responsable. Je pense qu'il y a des solutions. Les cercueils en carton, effectivement, c'est mieux que les cercueils vernissés. Après, je trouve qu'il faut aussi accompagner ces ambitions écologiques avec un discours, d'ailleurs, accompagner les endeuillés, le mort, le mourant. pour expliquer que il compte aussi qu'il y a un accompagnement voilà qui est au-delà de l'écologie. C'est il faut que l'homme soit quand même au-dessus. Je pense de. Enfin voilà, on sauve la planète aussi pour les humains et les morts n'ont pas à être des produits utiles. Le problème des morts et des mourants, c'est que ce sont des gens qui ne consomment plus et donc dont on n'a plus envie d'entendre parler. Or ça structure quand même la vie. Ce sont nos référents. On en a besoin et donc si on veut que la décomposition s'accélère pour laisser plus de place à d'autres morts et aux vivants, il faut aussi accompagner ça, je pense, d'un rituel plus fort, d'un accompagnement collectif, plus démonstratif que ce que l'on fait aujourd'hui.
Et ne pas escamoter tout ça. À propos de la mort, certains évoquent le transhumanisme, disent mais la mort n'existera plus, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus que la vie éternelle. Qu'est-ce que ça vous inspire? S'il n'y a pas de finitude, que vaut une vie?
Toute notre vie est structurée autour de ce point
de
final qui est la mort. Donc ça chamboulerait tout. Je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Je pense que ça serait déjà une notion de temps qui serait complètement différente. Ça bouleverserait tout. Et puis on serait en déconnexion avec le monde qui nous entoure, la nature, les planètes, rien que les étoiles aussi qui meurent et qui naissent. Qu'est-ce qu'on va devenir si on est hors de ce cycle naturel et cosmique? Je pense que ça serait très compliqué à gérer.
Vous êtes en paix avec vos fins dernières, Fanny Bocantin?
Eh bien oui, j'essaye de pas trop y penser.
Ah ben voilà. Très bien. La mort à l'œil nu aux éditions du CNR.